L'affaire Gilles Deleuze.
Chapitre 2, épisode 24.
Emma était partie rendre différents ses répétitions ainsi que logique du sens. Elle les avait survolées. Après tout, l'important était moins de répéter ce que Deleuze avait formulé à chaque étape que de comprendre pourquoi ces phases constituaient des étapes dans une pensée qui s'étirait comme un fil électrique et abrasif. Il fallait se contorsionner dans le devenir de son œuvre pour développer le lien des relations problématiques et complices. On devait attacher les livres entre eux et ne pas les maintenir dans des cellules isolées. Le projet consistait alors à trouver le minimum de distinctions conceptuelles qui puissent suivre sa trajectoire aberrante. Il fallait ensuite relier, dans un parcours fléché, ces bifurcations implicites que l'on avait jetées sur le papier. L'itinéraire était nécessairement tordu. Emma contemplait à présent les rayonnages sidérants de la bibliothèque. Elle errait entre les murs, à travers les salles, le long des couloirs. Ça et là, elle extirpait des livres des étagères et déchiffrait leurs titres aussi austères qu'absurdes. Elle s'arrêta sur un manuel de statistiques littéraires dans la tragédie du XVIIe siècle pour, plus loin, découvrir un ouvrage consacré à l'hystérie chez les femelles primates. Elle sentait qu'elle avait fait d'énormes progrès concernant l'appréhension d'une singularité. Le tout était certes trop abstrait mais nécessaire. Et puis, cela deviendrait concret plus tard. Sa joie était aussi motivée par un heureux événement. Il prenait la forme d'un dessin d'enveloppe sur l'écran de son portable. L'expéditeur, qu'elle avait rentré il y a 2 jours sous le nom de David dans son répertoire, n'était autre que le réceptionniste. Ils avaient devisé dans le froid et elle n'avait pas dû beaucoup insister pour qu'il se livre à l'exercice de l'autoportrait. Il était né et avait grandi à New York dans une famille dysfonctionnelle. Après avoir docilement suivi le cursus auquel le destinaient les instructions parentales élevant la culture au rang de religion, il avait brutalement interrompu son PhD sur la poésie médiévale française. Soudainement, il avait eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il avait quitté les bancs stériles de l'université pour venir à Paris, écrire, enfin. En attendant, il réceptionnait. Il lui avait aussi confié l'avoir observé à travers les vitres, l'avoir dévoré des yeux. Il lui demanda pourquoi elle se comportait avec tant d'agitation, avec tant de charme. Il l'invita à boire un verre près de Pigalle, un soir, où elle en aurait l'envie. Avant de s'éclipser, il lui avait tendu une carte qu'il avait faite plastifier avec son nom, un titre complexe, « Artist Performer Writer », et son numéro de téléphone. Hier, Emma lui avait écrit. Depuis, elle jetait des coups d'œil dément vers son portable. Elle s'envoya même quelques messages pour s'assurer du bon fonctionnement de son appareil. Puis, la dépêche était enfin tombée. « On va boire un verre ce soir ?» Au même moment, l'un des fous coutumiers de la bibliothèque arriva en trombe et se dirigea vers elle pour l'alpaguer. Elle tenta un subtil mouvement d'esquive en faisant mine d'avoir oublié quelque chose dans la direction opposée. Il se rapprocha néanmoins en hurlant. Au lieu de maîtriser cette énergumène, le bibliothécaire se tourna, effaré, vers Emma. « Qu'est-ce que vous lui avez fait, mademoiselle ?» Elle s'excusa et décida de rentrer chez elle à pied. Le message de l'Américain la rendait joyeuse, mais elle n'arrivait pas à se défaire de la voix terrorisante du fou. « Va te faire cuire un œuf, va te faire cuire un œuf, va te faire cuire un œuf, va te faire cuire un œuf !» Sur le trottoir, tandis qu'elle pressait le pas en traversant la foule, massée autour d'un pierrot peint en blanc qui faisait la statue, ce dernier lui adressa un clin d'œil diabolique. Elle songea que son entreprise avait été jusqu'à présent beaucoup trop sage. Un vrai problème mène jusqu'à la folie. Elle décida d'ajouter 2 catégories, sensé/insensé. Elle n'avait pour l'instant navigué qu'à travers les eaux calmes du continent du sens, même si l'on trouvait, sur une rive, le parasens plein de non-sens et sur l'autre rive, l'infrasens bouillonnant et ulcéré. La jonction n'était encore pas assurée par un passeur très compétent. Il lui faudrait donc comprendre plus précisément comment l'on passait d'une intensité impure bouillonnante à une intensité purifiée. Il lui faudrait comprendre comment cristalliser sa pensée. En tanguant, elle se pria de se mettre en tête d'écouter les insensés. Il n'y avait sûrement qu'eux qui pouvaient dire la transition qui l'intéressait.